quatrième et dernier volet de notre semaine consacrée à la Bibliothèque des Présidents, la fabrique de l'histoire. Aujourd'hui, la bibliothèque de François Mitterrand. Après avoir parlé lundi de la culture classique de la classe politique française au 19e et au 20e siècle, puis avoir visité mardi la bibliothèque de Charles de Gaulle, la Colombe et les deux églises, et hier avoir cherché à savoir en quoi la poésie avait peut-être servi au président Pompidou, un agrégé sachant écrire comme le disait Charles de Gaulle à son propos, eh bien nous allons aujourd'hui nous approcher avec Séverine Attard de la formation et du parcours littéraire et intellectuel de François Mitterrand. Qu'y avait-il dans la bibliothèque de François Mitterrand, du Saint-Jean-de-Perse, ça c'est sûr, du Jules Renard, on le sait, du Chateaubriand et du Lamartine, et quoi d'autre? Eh bien, nous allons en discuter avec François Ourmand, auteur de François Mitterrand, Le pouvoir et la plume, paru en 2010 aux presses universitaires de France dans la collection Le Nœud Gordien. Mais tout de suite, vous le savez, nous sommes jeudi, et le jeudi, nous vous proposons en ouverture de cette émission, pendant 7 à 8 minutes, un nouvel épisode de notre feuilleton sur l'enseignement de l'histoire dans nos classes en France, la fabrique de l'histoire scolaire, préparée par Séverine Attard. Séverine Attard a rencontré, après avoir rencontré auparavant deux autres associations de professeurs, l'association des professeurs d'histoire-géographie et les Clionautes. Aujourd'hui, elle a rencontré la présidente de l'association Aggiornamento Histoire-Géographie.
Charlemagne, fils de Pépin le Bref, 1768-814, les rois fainéants et les maires d'Austrasie.
Des dates, le Saint-Empire, oh, tout est prévu.
Je parle à des gens qui font semblant de m'écouter, semblant de me regarder. Je suis là, vous me voyez?
Des dates, le Saint-Empire, oh, tout est prévu.
Est-ce que vous me voyez?
La fabrique de l'histoire scolaire.
Vous m'écoutez, s'il vous plaît?
Faut pas que ce soit un cours. L'histoire, il faut pas l'apprendre, il faut la comprendre.
Je vais interroger quelqu'un sur la leçon qu'il y avait à apprendre pour aujourd'hui.
Laurence de Coq est enseignante dans le secondaire et chargée de cours à l'université en didactique de l'histoire. Elle est à l'initiative du collectif Aggiornamento Histoire-Géographie, créé en 2011. Une vingtaine de membres animent cette liste de discussions. Ils relaient des informations, livrent des réflexions et élaborent aussi des propositions sur l'enseignement de l'histoire-géographie.
Le collectif, il est né au moment où il y avait une mobilisation assez importante au sein des professeurs d'histoire-géographie sur les programmes de lycée. Et il se trouve que nous, quelques mois avant, on avait fait paraître collectivement un livre qui s'appelle « La fabrique scolaire de l'histoire ». Et donc, ce collectif, il est né de la rencontre, en fait, entre ces débats, la parution de ce livre et l'idée qu'il fallait qu'on s'organise pour essayer de penser un petit peu cette question de l'enseignement, de l'histoire et de la géographie. C'est vrai qu'on a connu un certain nombre de périodes maintenant, puisque ça fait 6 ans que ça existe. Grosso modo, les thématiques n'ont pas été très différentes entre la droite et la gauche, hein, celles sur lesquelles on a travaillé en tout cas. La plus importante, c'est la matrice histoire de France et cette propension qu'ont eu chacun des gouvernements, en fait, à ne pas vouloir rompre définitivement avec la logique de roman national. Alors bien sûr, c'était beaucoup plus ancré lorsque la droite était au pouvoir que lors de la dernière réécriture de programme, mais néanmoins, la dernière réécriture de programme de collège, la première mouture a provoqué un débat énorme, et ce débat a soulevé exactement les mêmes questions, avec tout un tas de groupes de pression pensant qu'on était trop éloigné de l'histoire de France et qu'il fallait absolument y revenir. Et nous, dans le collectif, nous sommes un certain nombre à être partisans d'une ouverture de ce récit à d'autres horizons et à d'autres manières de raconter l'histoire. On ne s'intéresse pas qu'au programme, on réfléchit aussi beaucoup sur les pratiques, et c'est ce qui fait notre originalité, les pratiques de classe, la mutualisation des pratiques, et puis aussi les porosités avec les autres disciplines.
Par exemple, pour revenir sur ces questions de programme, Laurence de Coq, alors vous essayez aussi d'élaborer des problématiques et puis une réflexion sur vous, en tant que praticien, et théoricien, hein, les deux, sur ce sujet.
Nous sommes partisans d'avoir des programmes qui soient les plus souples possibles et qui soient presque les plus énigmatiques possibles dans leur formulation, de telle sorte à ce que nous soyons vraiment libres de la mobilisation d'une historiographie récente pour traiter de cette question-là. Moi, j'aimerais avoir simplement la guerre 1914-1918. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir des sous-thèmes qui précisent ceci, cela. Et la guerre 1914-1918, ça permet de l'aborder par le prisme de l'histoire sociale, de l'histoire du genre, de l'histoire économique, de la chronologie, parce qu'entre 1914 et 1918, il y a 4 années qui sont interminables pour ceux qui les vivent. Et on n'est pas en guerre en 1917 comme on l'est en 1915, donc on n'est pas du tout contre la chronologie, on est au contraire pour une réflexion sur les temporalités. Mais plus un programme est vague et plus il laisse la possibilité justement de mobiliser des historiographies qui soient plus critiques. Alors, on est minoritaire à penser ça. Je vois bien qu'on est minoritaire parce que lorsqu'on l'a porté au printemps 2015, on a eu aussi des collègues qui nous ont rétorqué « Non, nous, on a besoin de cadrage ». Bon, donc on voit bien qu'on n'est pas représentatif en disant ça, mais je dirais que peu importe, tant pis si notre pensée est minoritaire, tant pis si effectivement on essaie de bousculer un petit peu des allants de soi, je crois qu'on n'aura pas d'enseignement de l'histoire et de la géographie critique sans passer par un allègement considérable de la formulation des programmes.
Et cette réticence, elle est due à quoi ? Une mésassurance des enseignants ? Un problème au niveau des examens ? Pour que voilà, tous les élèves aient les mêmes connaissances à la fin d'une année scolaire, par exemple, au collège ?
Oui, les deux aspects interviennent. Je pense qu'en effet, il y a une forme d'autodisqualification de la part des enseignants et surtout chez les jeunes. Moi, je le vois chez beaucoup de stagiaires, des jeunes enseignants qui doutent, qui ont peur de mal faire. C'est vrai que quand on passe le concours et quand on enseigne pour la première année, je crois que c'était Jacques Le Goff ou Antoine Pro, je sais plus, qui disait qu'on maîtrisait 5% de ce qu'on allait devoir enseigner. Alors évidemment, c'est totalement plombant comme idée et en même temps, on peut aussi le voir comme quelque chose d'excitant. C'est-à-dire que c'est un travail qui n'est jamais terminé, on n'en a jamais fait le tour, puisqu'à chaque fois, il faut se renouveler scientifiquement. Mais ça demande du temps, ça demande de savoir travailler sans filet, et du coup, un profond renouvellement de la culture professionnelle. Ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, en effet, c'est l'évaluation. À la fois l'évaluation des élèves, mais ça, je dirais que ça se réglerait assez facilement, mais surtout l'évaluation des enseignants, qui de plus en plus repose sur une capacité à avoir une programmation qui tient dans l'année. C'est l'une des premières choses qui est regardée, savoir si la programmation est colle exactement au nombre d'heures selon le jour, etc. C'est vrai que si on a des programmes qui sont beaucoup plus souples, qui tiennent en quelques lignes, alors là aussi la programmation est laissée davantage à la liberté des enseignants et elle est moins facile à évaluer autrement que sous la forme d'une discussion professionnelle où l'enseignant aurait à justifier de ses choix. Mais on les appelle à y réfléchir plus avant, sait-on jamais.
Voilà pour ce nouvel épisode de la Fabrique de l'Histoire scolaire qui tente de nous raconter pendant toute une année comment on enseigne l'histoire en France, aussi bien au niveau de la rédaction des manuels, de la conception des programmes, des débats entre professeurs d'histoire donc dans des associations, mais également dans les classes. C'est ce que nous racontons donc tous les jeudis en ouverture de cette émission. Et nous poursuivons avec vous, Séverine Yatta. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez préparé l'émission de ce jour autour de François Mitterrand. Notre dans la bibliothèque des présidents où nous tentons de comprendre quelle a été la culture et en particulier la culture littéraire de nos présidents de la République. Nous avons parlé de Charles de Gaulle avant-hier, de Georges Pompidou hier et aujourd'hui donc de François Mitterrand. Bonjour François Ourmand.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur en 2010, c'est cela, aux Presses universitaires de France, d'un ouvrage qui s'appelait François Mitterrand, le pouvoir et la plume, qui traitait justement de la posture, pourrait-on dire, du président en écrivain, une posture qui évidemment s'appuie sur des prestations, et en particulier des prestations télévisées. La première d'entre elles, eh bien, c'est celle de 1975, vous avez extrait, donc Séverine Yatta.
Avec laquelle nous avons beaucoup travaillé pour cette émission, puisque toute l'émission sera étayée par des extraits de cette fameuse émission.
Qui
cinquième
s'appelait
émission d'Apostrophe. Bernard Pivot invite donc François Mitterrand.
Nous sommes en 1975, le 7 février.
François Mitterrand, avant de parler de vos lectures, nous allons d'abord parler de l'écrivain, parce que ce n'est pas votre premier livre, vous en publiez un nouveau, sous le titre La paille et le grain chez Flammarion, dans une collection qui s'intitule La rose au poing, qui est dirigée par Bernard Pingot, et dans laquelle on trouve les textes socialistes, donc il est normal que votre livre paraisse dans cette collection. Alors, comment définir cet ouvrage? Est-ce que c'est une chronique, des notes, un journal?
C'est entre la chronique et le journal. Chronique, forcément, parce que je suis un responsable politique, j'écris de temps à autre dans l'hebdomadaire du Parti Socialiste qui s'appelle Unité. On me sollicite quelquefois pour écrire des articles dans différents journaux, amis ou adversaires, et je suis donc amené à commenter l'actualité. Ce sont des chroniques. Et puis c'est devenu aussi un peu un journal, sans l'être tout à fait, dans la mesure où, lassé de parler toujours de choses extérieures, j'ai quelquefois voulu m'exprimer vraiment moi-même par rapport à des faits qui ne touchent pas en vérité l'universel, mais qui m'intéressent lorsqu'il s'agit d'une promenade dans la forêt, d'une rencontre avec des amis, d'une impression, d'une sensation. J'ai mêlé les deux genres, ce qui fait que peut-être ce livre n'en a aucun. En tout cas, je ne me suis pas posé en auteur, j'ai simplement voulu, en 300 pages, tenter de cerner une certaine vérité, ma position, mes réactions face au monde, celui de mon pays, celui aussi de brassage des hommes sur la surface de la planète, et puis ce qui fait le prix de la vie.
Mais on sent en tout cas chez vous une sorte de besoin d'écrire, un plaisir d'écrire.
J'aime écrire. Je pense que si je n'avais pas été absorbé par ma vie politique, j'aurais aimé consacrer partie de ma vie à construire une œuvre littéraire. En avais-je le talent? J'en avais en tout cas le goût. Comment écrire? Il faut l'unité de l'esprit. L'homme politique, ou bien celui qui est pris par une autre profession, toujours arraché à lui-même, a de la peine à devenir écrivain. C'est mon cas.
Voilà, donc c'était le 7 février 1975, un premier extrait de cette émission d'Apostrophe, donc menée par Bernard Pivot, autour de la figure de François Mitterrand, lector, c'est ce que vous dites, donc François Ourmand, celui qui lit beaucoup, et il va décliner toutes ses lectures dans cette Apostrophe, dont on écoutera d'autres extraits un peu plus tard dans cette émission. Alors, il aime écrire, on le sait encore plus depuis 6 mois, puisque effectivement la parution à la fois des lettres à Anne Pinjot chez Gallimard et du journal pour Anne nous montre qu'il aime écrire. Il y a 1200 pages de lettres et 500 ou 600 pages de journal pour Anne. Il écrit tout le temps, en l'occurrence, François Mitterrand.
Oui, en fait, il a une œuvre abondante. On en a parlé, de bien évidemment, sans compter ses discours, mais pas loin d'une vingtaine d'ouvrages publiés. Si on rajoute à cela, en effet, ces deux sommes un peu singulières, mais qui...
Très récentes,
exactement, qui éclairent d'un jour assez singulier le personnage, me semble-t-il aussi. On y reviendra peut-être tout à l'heure sur cette facette plus intime du Mitterrand. C'est un polygraphe, incontestablement. Alors, ici, ce qui est intéressant dans cet extrait, il y a une densité, il me semble, dans ces quelques mots, dans ces quelques lignes. C'est moins le lecteur, d'ailleurs, ici, qu'on abordera peut-être plus tard. Que l'auteur, un auteur qui ne se pose pas encore en écrivain, si on peut établir une hiérarchie entre les genres, sachant que l'écrivain est depuis en quelque sorte le XVIIe siècle la figure la plus achevée finalement de ce rapport à la littérature, qui s'absorbe dans l'écriture. Ici, c'est assez intéressant, si on déconstruit un petit peu tout le propos mitterrandien, on voit qu'il y a d'abord une forme de dénégation de ce statut d'auteur. Non, je ne suis pas un écrivain, je ne suis pas un auteur, n'en déplaise à ce que proclame Bernard Pivot, mais il est quand même invité dans une émission qui est explicitement labellisé comme littéraire, même si c'est la cinquième émission de Bernard Pivot, elle n'est pas encore consacrée, hein, comme elle le sera ultérieurement dans le champ intellectuel et médiatique, mais il est dans une émission littéraire, il est invité pour la parution d'un livre, ce livre c'est « La paille et le grain », donc qu'il publie à ce moment-là, donc ce n'est pas anodin, et on verra d'ailleurs que son livre jumeau, finalement, L'abeille et l'architecte, qui sera publié en 1978, qui prend la suite, en quelque sorte, là où la paille et le grain s'arrêtent en 75, l'abeille et l'architecte commence, lui, en 75 jusqu'en 78. Deux livres jumeaux, en quelque sorte, qui posent le problème de la définition du genre, ce que soulève François Mitterrand, et il réfute... Enfin, il souligne la dimension hybride d'une chronique qui n'en est pas une. C'est un choix de l'éditeur, dira-t-il d'ailleurs pour son livre à propos de l'abeille et l'architecte, niant en quelque sorte ou réfutant cette inscription dans un genre qui peut-être sans doute lui paraît dévalué au regard de ce qu'il prétend faire, de ce qu'il prétend être.
Et donc, une œuvre.
Une œuvre, voilà. Enfin, une œuvre littéraire, en tout cas. Et donc, la chronique, c'est évidemment une forme d'assujettissement à quelque chose de circonstanciel qui suit le cours des événements, des chroniques qui sont pour l'essentiel publiées dans l'Unité, le journal du Parti Socialiste, etc. Et donc il tire plutôt son propos vers, ou son travail vers le journal. Le journal, en le dotant d'une caractéristique plus personnelle, il évoque les impressions, une promenade en forêt, etc. Donc on n'est plus ici simplement dans le registre purement politique, mais on commence déjà évidemment à s'inscrire dans un autre registre qui est plus davantage celui de l'écrivain, des émotions, des sensations.
Mais à ce moment-là...
D'ailleurs, justement, à la fin de son propos, déjà, on voit que Mitterrand pose la tension, donc justement, entre le politique et l'écrivain pour se montrer capable, lui, d'être cet homme dédoublé qui est à la fois politique et écrivain. Alors, il va explorer évidemment cette image davantage encore les années suivantes. Mais voilà, l'homme politique est dans l'action, l'écrivain est dans le rêve, et moi, je suis dans les deux, même si je n'ai pas véritablement le temps de me consacrer au travail d'écrivain.
Oui, c'est tout à fait ça. En fait, il est dans cette tension, mais dans cette tension entre l'action politique qui est dans le court terme, dans la justification, et d'autre part, le temps de l'écriture, alors il y reviendra, il parle aussi de tout à l'heure de son rapport à l'écriture, comment écrire, etc. Donc le temps de l'écriture, qui lui est le temps de la réflexion, de la prise de distance, etc. Alors cette posture, elle est en même temps relativement novatrice, il me semble, dans le champ politique, au moment où il écrit, où il intervient. Alors on l'a souvent, et je l'ai moi-même comparé au général de Gaulle, sachant qu'en même temps, le général de Gaulle, il construit l'essentiel de son œuvre lors de la traversée du désert. Mm-hmm.
Avec l'appel.
Au moment, d'ailleurs, il écrit au moment où il n'est pas au pouvoir.
Voilà, c'est ça, exactement. Au moment où il n'est pas au pouvoir, il écrit pendant la traversée du désert, ou après, lorsqu'il a quitté le pouvoir. Voilà. Et entre les deux, lorsqu'il exerce le pouvoir, il y a peu d'écrits. Mitterrand, lui, en fait, il écrit peu sous la 4ème République, parce qu'il est au pouvoir aussi, 11 fois ministre sous la 4ème République, il a écrit quelques bouquins, mais assez peu. Et en fait, sa stratégie éditoriale, si tant est que c'était pensé comme une stratégie, hein, c'est un peu, le terme est peut-être un peu fort, excessif, hein, je ne pense pas qu'il ait prémédité cette carrière, en quelque sorte, cette double carrière politique et littéraire, mais on voit bien qu'à partir du moment où il est dans l'opposition sous la 5ème République, il va commencer à mener un travail de publication, d'écriture. Alors, d'abord sur un mode assez classique, c'est un voyage en Chine qui donne un récit de voyage en 1961. C'est surtout en 64.
Le coup d'État permanent.
Le coup d'État permanent qui est un pamphlet contre le général de Gaulle et qui utilise tous les registres du genre pamphlétaire.
Oui, mais...
qui joue sur ce brio de bretteur, de styliste, pour attaquer le général de Gaulle en se replaçant dans une tradition, en quelque sorte, qui a pu avoir ses lettres de noblesse.
Alors, si on s'approche justement de ce que dit François Mitterrand, de ses lectures d'abord, eh bien on va écouter un deuxième extrait que vous avez sélectionné, Séverine Yatard, dans cette émission d'Apostrophe de 1975. Et évidemment, Bernard Pivot, naturellement, lui demande ses premières lectures, ce qu'il a lu en premier, pourrait-on dire, pour pouvoir forger sa culture littéraire.
Quel est le premier livre qui vous a marqué dans votre jeunesse?
Les Mémoires d'Outre-Tombe, La guerre et la paix, Discussion ouverte ou Guerre et paix, La porte étroite. Et puis, en raison des conditions dans lesquelles j'avais été formé, j'étais, je reste, je suis toujours extraordinairement sensible à Pascal.
Et Barrès ?
Un peu plus tard, vers 16 ou 17 ans. J'ai terriblement aimé chez Barrès ce qui reste en moi un élément capital de mon évolution, qui me touche même au fond, c'est la géographie de la France, le visage de la France, le visage physique de la France. On parle toujours de certaines idées. Non, le visage physique, son apparence, telle qu'elle est, comme ça, sa géologie, ses couleurs. Et vraiment, la première page de La Colline Inspirée, c'est pour moi, c'est resté un chef-d'œuvre. En plus, je crois que c'est un chef-d'œuvre de la littérature. Mm-hmm. Alors, j'ai quitté Barrès assez vite, et l'homme politique que je suis aujourd'hui répudierait, bien entendu, bien des aspects de ce Barrès-là. Mais La Colline Inspirée et d'autres pages font que je reste fidèle. J'ajoute que Barrès me paraît un des plus grands écrivains de notre langue. Et son influence sur des hommes comme aussi dissemblables que Monterland ou Aragon montre bien oui, que vrai. Je ne suis pas le seul à le penser.
Voilà donc pour ce deuxième extrait de cette apostrophe de 1975 dans lequel François Mitterrand se livre sur ses premières lectures. Il parle de Barrès, mais cette description de la géographie de la France est importante à ses yeux et vient être confirmée par l'apparition du livre de Marie de Henzel qui a accompagné en particulier François Mitterrand dans ses dernières années. Elle est psychologue, mais elle a connu Mitterrand entre 1984 ou 85 et sa mort. Et elle raconte une visite dans une librairie. Et donc pour aller voir des éditions originales avec François Mitterrand. Une demi-heure plus tard, il repart avec deux livres de Jacques Chardon qu'il m'offre et que j'ai toujours, Eva, le journal interrompu, et Les Varets, écrit Marie de Henzel. Vous aimerez, j'en suis sûr, une si belle écriture. Vous verrez, il vous fera aimer la Charente. Puis, tandis que nous descendons côte à côte le boulevard Raspail, à côté de la librairie Gallimard, il dit « Enfant, je disposais d'une immense liberté, celle de l'imaginaire ». Je me souviens de mes rêveries le long de la Charente et du plaisir inouï que j'avais à lire. Les livres vous emportent dans les recoins secrets du monde et de la vie, surtout quand ils sont écrits avec l'âme. On voyage avec son âme dans les livres, non ? Dit-il en me regardant. Qu'en pensez-vous, François Roman ?
Alors on voit aussi à travers cette lecture, ce rapport à la littérature et au-delà aux auteurs... Bien évidemment, l'appétence incontestable de François Mitterrand pour l'écriture, pour la littérature au sens large. Mmh. Hein. Après, bien évidemment, on voit bien dans les choix qu'il fait, qui sont évoqués ici, que ces choix sont remettre en question la sincérité de ses choix, parce qu'il est... Mais ne perdons pas de vue, bien sûr, que dans une émission télévisée, on n'avoue pas nécessairement toutes ses lectures, enfin un choix en tout cas, un choix
qu'est-ce
sélectif.
Qu'est-ce qui pourrait plaire au
voilà,
public.
Il y a, Bourdieu parlait d'un effet de légitimité des lectures que l'on affiche, c'est-à-dire qu'on ne va pas, nécessairement dire... quels sont nos auteurs préférés, mais ceux qui méritent d'être mentionnés. Alors, je ne dis pas cela pour François Mitterrand, bien évidemment, mais on voit en même temps que les auteurs qui sont mobilisés, Chateaubriand, ça paraît relativement classique.
Barrès pour un homme de gauche, Barrès, tout de même.
Oui, mais qui justifie en disant que des hommes aussi différents que Monterland ou Aragon le lisent aussi. Donc, il évacue la question polémique.
Oui, en même temps, bon, Barrès, ça peut se comprendre compte tenu de la place de Barrès... dans le panorama littéraire de l'époque.
Et de sa génération.
De sa génération, bien sûr. C'est quand même une génération, il est né en 1916. Donc, Barrès a régné sur le monde des lettres au début du XXe siècle, à la fin. Hein. Et donc, il a joué un rôle extrêmement important. C'est un écrivain incontournable. C'est un écrivain qui exalte l'enracinement aussi, la terre. Et je ne sais pas si...
La terre et les morts, évidemment.
Oui, bien sûr.
Et Chardon, de son côté... Aussi,
la Charente qui est chère à Mitterrand. Donc là, il y a une proximité entre Chardon et Mitterrand qui est aussi géographique, hein, bien évidemment, hein, qui ne se contente pas, qui n'est pas purement littéraire, mais il partage cet amour de la Charente.
Hein. Et Julien Gracq, par exemple, fait partie aussi de ces lectures qu'il revendique, parce qu'on pourrait se dire effectivement que les Carnets du Grand Chemin ou d'autres types d'écriture géographique, pourrait-on dire, de Julien Gracq, qui est un formidable descripteur du paysage et du paysage français en particulier. Et de la ville aussi, pourrait faire partie des lectures de François Mitterrand.
elle pourrait. Après, ouais. Il se peut
exprimer dessus.
J'ai peu trouvé de témoignages sur Julien Gracq à cet égard.
En tous les cas, dès l'affirmation, voilà, de sa formation, hein, de lecteur et de littérature, il donne à voir quand même une culture assez éclectique, mine de rien. Entre Les Mémoires d'Outre-Tombe, Guerre et Paix, un grand auteur étranger, André Gide, La Porte Étroite, et puis Pascal, un peu de philosophie, et Barrès, bon voilà, on est sur la France aujourd'hui. Alors bon,
Je pense
c'est à la fois canonique et éclectique, comment...
C'est ça, alors il y a une partie, il peut y avoir une... Bon là, ce sont des auteurs finalement peu scolaires, hein, je ne pense pas que ça fasse partie des auteurs étudiés par François Mitterrand lorsqu'il était au Collège catholique. Hein, Gide, bon...
On a des doutes.
On en doute un peu. Il y a, bien sûr, on voit bien que cette volonté de donner à la fois des gages un certain classicisme littéraire, finalement la référence à Chateaubriand, ou à Lamartine, comme il l'évoquera aussi dans l'émission, elle est assez incontournable. C'est un écrivain consacré, et en même temps, qui fait partie de ces écrivains tentés, fascinés par la littérature. Hein, il y a toujours cette réversibilité des postures, des hommes politiques fascinés par l'écriture, comme des hommes de lettres fascinés par la politique. Mais, et à côté de ça, en effet, sans doute des logiques distinctives à travers Gide, à travers... je ne sais plus quel auteur vous citez.
Guerre et Paix,
Tolstoï, etc.
Tolstoï. Bien sûr.
Alors, troisième extrait de cette apostrophe de 1975, avec François Mitterrand interrogé par Bernard Pivot sur ses goûts littéraires. Et là, il évoque Jules Renard.
Alors, c'est Jules Renard.
Jules Renard, ça c'est le côté Nivernais.
C'est le côté Nivernais.
Vous aimez aussi. Je suis devenu député de la Nièvre, vous voyez, il y a bien longtemps, en 1946. Ça fera donc bientôt 29 ans. Et c'est devenu aussi mon pays. Dirais-je que j'y suis très attaché. C'est normal, vous le comprendrez. Et parmi les écrivains de cette région, on trouve aussi bien Claude Tillet, Romain Rolland, un peu plus loin, un peu plus haut, du côté de Puisé, Colette. Et puis alors en plein Jules Renard, pour citer quelques-uns des plus grands. Et Jules Renard a été conseiller municipal ou maire de deux communes voisines, toutes petites communes qui s'appellent l'une Chitry-les-Mines et l'autre Chaumont. Jules Renard était un républicain. C'est d'ailleurs beaucoup de conférences à Clamcy, à Nevers, à Châtillon-en-Bazois sur la littérature de gauche. Il fréquentait Jaurès et Blum, qui apparaissent assez souvent dans le journal. Et il était suffisamment populaire pour avoir été élu conseiller municipal et maire à partir de 1900. Et il est mort en 1910. Vous direz que ce n'est pas une preuve absolue. Mais enfin, ça prouve qu'il était estimé par la population.
France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
Une fabrique de l'histoire consacrée aux lectures de François Mitterrand dans notre série consacrée aux bibliothèques des présidents de la République. Alors effectivement, il aime beaucoup Jules Renard. On imagine qu'il l'aime beaucoup aussi pour son caractère acerbe, sa plume très aiguë. Renard qui dans son journal écrit par exemple de Barrès. Barrès se retient trop, il sera malade quelques jours, sa sincérité contenue fera péter sa peau, il mourra de conviction rentrée, étouffera de civilisation comme d'autres d'un manque d'air, par exemple. On voit bien chez François Mitterrand cette capacité à critiquer l'autre, à faire des portraits très sévères, mais effectivement, on peut conforter son amour de Jules Renard par ce qu'on lit dans les lettres écrites à Anne Pinjot, puisqu'au jour du 2 février 1964, il dit « Nous partirons à Anne Pinjot vers 9h. Je pense que nous pourrons saluer au passage la maison d'enfance de Colette et celle de Jules Renard, le village de Romain Rolland, avant d'aborder le Morvan, peut-être aussi le village de Giraudoux et d'Alain Fournier, une sorte de voyage littéraire, François Ourmand.
Oui, absolument. Toutes ces pérégrinations sont toujours marquées, hein, que ce soit dans le Nivernais, en effet, par, comme vous l'expliquez, toutes ces étapes sont marquées par ces références littéraires. Et on voit bien que cette culture littéraire qui est la sienne, elle infuse toute sa personnalité de ce point de vue. Donc ce n'est pas purement fin, en quelque sorte, ce n'est pas pure stratégie, bien évidemment, à cet égard. Et sur Jules Renard, bien sûr, on retrouve ce sens de la plume, cette causticité que Mitterrand pouvait avoir lui-même aussi, qu'il avait pu avoir dans le coup d'État permanent, hein, bien sûr. J'ai retenu une formule de Mitterrand à propos de De Gaulle, hein, la personnalité du général De Gaulle est riche de tant d'attraits qu'elle survivra à son œuvre finalement assez mince. Bon, on retrouve bien ici un style lapidaire. Ouais. Hein, et alors, ce qui est intéressant, c'est chez Jules Romain, bien sûr, il y a ce journal.
Jules
Renard, en effet. Il y a la géographie familière, qui est celle de François Mitterrand en tant que député de la Nièvre, hein, Châtillon-Bazois, etc. Toutes ces communes qu'il a pu arpenter lorsqu'il était député de cette circonscription et sur ces terres desquels il reviendra fréquemment. Et puis, il y a aussi, évidemment, pour faire contrepoint peut-être à Barrès, ici, évidemment, la dimension politique.
Ouais.
Hein,
l'ancrage politique. C'est l'écrivain socialiste.
Voilà, proche, enfin, qui a connu Blum et Jaurès. Donc là, c'est en quelque sorte manière de donner des gages
À son électorat,
voilà,
à son électorat potentiel.
À son positionnement politique.
Séverine Yatard.
Donc juste pour poursuivre sur cette culture, l'autre archive que nous avons choisie, donc on a plutôt affaire cette fois aux auteurs d'aujourd'hui, hein, que Bernard Pivot présente à François Mitterrand.
Bon, François Mitterrand, on va venir aux écrivains contemporains parce que avec lui il tourne. Et alors évidemment, j'aurais pu inviter autour de vous des écrivains que vous appréciez, qui sont vos amis. Je pense à Benoît de Groult, à Paul Guimard, à Claude Manseron, à Blondin, enfin il y a beaucoup d'autres. Mais enfin, nous avons pensé que ça ferait un peu trop fête de famille. En revanche, j'ai prié de venir Camille Bourniquel, parce que vous parlez de Camille Bourniquel dans votre ouvrage, vous dites qu'à un moment vous lisez le lac et que vous aimez beaucoup. Alors voilà, je vous présente donc Camille Bourniquel.
Ceux dont vous avez prononcé les noms, je les ai généralement connus à travers leur œuvre. C'est parce qu'un jour, je suis tombé sur un bouquin qui s'appelle « Journal à quatre mains » que j'ai aimé Benoît de Groult. C'est parce que j'ai lu un jour « L'ironie du sort » que j'ai aimé Paul Guimard. C'est parce que j'ai lu plusieurs ouvrages d'Antoine Blondin, et en particulier les derniers, que je ne connais pas depuis tellement longtemps, que je suis devenu ami de Blondin. C'est parce que je lis Manseron depuis toujours, que j'aime son souffle, sa puissance, et c'est l'amour de l'histoire. Bon, très bien, tout ça, je pourrais continuer un moment. Mais je n'ai pas eu... Enfin, c'est ce soir que je fais connaissance avec Camille Bourniquel. Là, vous lui avez joué, et à moi aussi, un certain tour, parce que c'est vrai qu'à un moment, je dis, je ne sais pas ce qui se passe, je crois que c'est un moment de migration de grues ou migration d'oiseaux, et je rapporte que cette migration m'émeut. Vous savez, quand on est tout d'un coup... confronté à ces choses oubliées, qui sont tout de même les grands mouvements de l'espace et des choses, vraiment ça fait quelque chose. Disons, il y a des livres, voyez-vous, il y a des livres de rencontres.
Il y a des livres de rencontres, c'est une formidable expression, François Roman.
Oui, évidemment, mais je pense que Mitterrand en a fait beaucoup de rencontres littéraires de ce point de vue.
Oui, parce qu'effectivement, il n'avait pas peur des écrivains d'une certaine façon. Et lorsqu'il lisait un livre, effectivement, ça on en a la trace dans plusieurs mémoires, lorsqu'il lisait un livre, il voulait rencontrer son auteur quand ce livre lui avait particulièrement plu.
Et surtout, il dit la distinction, c'est peut-être ça, c'est qu'il dit « j'ai lu les auteurs ». D'abord, et après je les rencontre. Voilà. Et là, il y a quand même une affaire, évidemment, de légitimation.
Il y a une médiation d'abord littéraire qui l'amène ensuite à avoir envie de rencontrer ses auteurs. Ce désir de rencontrer les auteurs, il est assez précoce chez François Mitterrand d'ailleurs. Il raconte en même temps, je crois que c'est dans Ma part de vérité, je suis pas sûr, comment il est fasciné bien sûr par Mauriac. Alors Mauriac, il va le rencontrer assez rapidement, mais quand il monte à Paris, comment il peut être fasciné par les auteurs, mais qu'il n'ose pas aller les rencontrer par rapport à beaucoup de ses camarades, etc., de faire ce geste de proximité avec les auteurs. Alors ensuite, on voit bien ici que toute une partie de son cercle d'amis, qu'on a pu évoquer, Paul Guimard, mais aussi Marguerite Duras, ultérieurement, Françoise Sagan, etc., ce sont aussi des auteurs donc qu'il aime, avec lesquels il aime aussi, non seulement il les aime à travers leurs œuvres, mais aussi il aime leur sociabilité.
Oui, et donc, d'une certaine façon, il va en user comment de cette sociabilité des écrivains? C'est-à-dire que, effectivement, on peut se dire, il fait partie de ceux qui, peut-être, avant d'autres, ont compris qu'on pouvait mettre en avant cette proximité avec des écrivains et des auteurs pour pouvoir, montrer qu'on était un homme de culture, par exemple, à un moment où la question de l'émergence de la question culturelle dans la société française devient importante aux alentours des années 70, par exemple.
C'est ça. En fait, il met en scène. Alors là, il y a des lectures contradictoires. Bon, Hubert Védrine estimons en effet qu'il y a une phase, une première phase, il a écrit ça dans plusieurs textes, une première phase de proximité, de sincérité dans cette relation aux autres, aux écrivains, et que à partir des années 70 aussi,
il instrumentalise
un peu plus, disons, sans que ce soit du cynisme consommé, mais que il peut voir le profit qu'il peut tirer de cette proximité avec des écrivains dans le contexte des élections présidentielles, et ensuite après 1974 aussi, les écrivains qui votent Mitterrand ça lui permet évidemment de toucher aussi potentiellement un électorat. Celui des enseignants ancrés à gauche, etc., de tous ceux et celles qui sont fascinés ou intéressés par la dimension culturelle. Et les années 70, ça va permettre à Mitterrand aussi de jouer cette partition littéraire en contrepoint à la partition technocratique qui est jouée au
moment de la modernité.
De la modernité giscardienne.
Ouais.
Et paradoxalement, en 1981, la modernité giscardienne, elle est tendanciellement dévaluée. Parce que finalement, Giscard, il n'a pas su juguler le chômage, l'inflation. Et face à la relative incompétence économique qui était la sienne, de Mitterrand, il va jouer avec succès, au contraire, la partition lettrée.
Et pourtant, vous dites que Valéry Giscard d'Estaing a initié les premiers dîners d'écrivains, oui. Justement, oui. Avant les élections présidentielles.
C'est vrai.
En invitant Lévi-Strauss,
oui,
Brodel, enfin d'ailleurs, des auteurs de sciences humaines et des écrivains. Et après, évidemment, Mitterrand va généraliser ces dîners d'écrivains, notamment avec l'aide de Laure Adler, d'ailleurs.
De Régis Debray aussi, auparavant.
Alors, c'est vrai qu'en effet, Giscard initie cette pratique. Il invite Solers,
Barthes,
etc. Bon, tout un certain nombre d'auteurs consacrés à l'époque dans le segment de la théorie structuraliste, etc., par exemple, de l'avant-garde littéraire, notamment. Donc en lien aussi peut-être avec cette idée de modernité qui serait la sienne, mais en même temps, on le voit aussi, il y a chez Giscard, malgré tout, ce qu'on peut appeler avec Bourdieu une forme de bonne volonté culturelle, qui n'est pas celle de Mitterrand, en quelque sorte. Mitterrand a des choix beaucoup plus éclectiques.
Et on peut dire aussi, il a des choix éclectiques, mais aussi on peut voir la culture littéraire de François Mitterrand par ses manques. C'est vrai que quand on lit les lettres à Anne et quand on lit le journal pour Anne, donc on trouve très peu, voire quasiment pas, de mentions de sciences humaines, par exemple. Il lit des livres d'actualité, Jean-François Revel, tous ceux qui publient des livres d'actualité au moment où il travaille, où il écrit. Il lit des livres de littérature et de poésie, bien évidemment, mais très peu les auteurs de sciences humaines de ce moment-là. Vous parliez des structuralistes, tout compte fait, ils étaient peut-être presque mieux servis, visiblement, d'après ces lectures, par Valéry Giscard d'Estaing et sa bonne volonté culturelle que vous décriviez, François Aumont, que par François Mitterrand. C'est étrange, ça.
Oui, c'est très étrange. Et Régis Debray, d'ailleurs, le raconte, je crois, dans Louer sous nos seigneurs, je ne sais plus si c'est le titre exact. Il raconte ça, qu'il y a eu Régis Debray, en tant que conseiller de Mitterrand à l'Élysée, après 1980, essaye de lui faire rencontrer Fernand Braudel,
Michel Foucault,
lui parler de Michel Foucault, tout ça, et l'initier à la revue Le Débat, etc.
Esprit,
enfin, il a dit, je n'irai pas jusqu'à la revue Mots du laboratoire de lexicographie politique de Normal Sup, mais c'était un échec. En fait, on est revenu, comme dit Debray, très rapidement à Sagan, Guimard, une sorte
Marguerite
de frivolité.
Marguerite Duras aussi.
Voilà.
Cyril Natin.
En tous les cas, enfin, aussi pour revenir sur ce statut d'écrivain que va se donner Mitterrand, François Bourmand, il y a cette émission Apostrophe, dont nous diffusons des extraits en 75, et puis il y aura une autre émission d'Apostrophe à laquelle va être invité François Mitterrand en 78, où là, il va être confronté en discussion avec des écrivains qui seront Fournier, Modiano, sur un pied d'égalité. Et ça va donner aussi légitimité complète, finalement, à ce président, à cette image de président-écrivain qui veut...
Ça va même plus loin, parce que c'est le doublon en mieux, si je puis dire, de l'émission de 75, parce que là, c'est Pivot lui laisse carte blanche pour inviter les écrivains qu'il aime. Alors, ils ont fait une première liste, et puis il invite, en définitive, Modiano, qui publie... Rue des Boutiques Obscures, qui allait avoir le Goncourt, si ma mémoire est bonne. Michel Tournier, pour l'auteur de Vendredi, qu'il admire particulièrement.
Paul Guimard,
qui est un ami aussi. Et puis Emmanuel Leroy Ladurie, pour son livre sur le territoire
des citoyens. Et là, il parle de la difficulté d'écrire, de la page blanche, enfin, de l'angoisse de l'écrivain. Donc là, on, voilà.
Il a changé de statut entre les deux émissions.
Exactement. Il a grandi, en quelque sorte. Là, il est à la fois considéré incontestablement, il se considère aussi. Parce qu'il y a ça aussi dans l'auto-perception,
de soi.
Il se considère véritablement comme un écrivain qui parle de, qui reprend tous les invariants en quelque sorte de l'écrivain, de cette institution de la littérature qui est la page blanche, l'inspiration, la topique de l'inspiration,
le temps d'écrire.
Cette distance au monde, etc., cette obsession du temps qui est annihilée, qui est anesthésiée par l'écriture.
Et puis, on peut dire aussi qu'il y a toujours une réflexion, vous l'avez dit, sur le temps, sur l'espace aussi, chez François Mitterrand. Et cette réflexion à la fois sur le temps et sur l'espace, elle est présente dans un ouvrage dont il parle en 1975, dans cette apostrophe avec Bernard Pivot.
François Mitterrand, il nous reste 3 minutes. Dans votre livre, vous parlez encore de Neruda, de Pascal, d'Aristote, de Voltaire, de Tchekhov, de Tolstoï, William Reich, Paul Fort, Jean Rieu, Erckmann Chatrian, et puis Buzzati, Giono et Paul Gaden. Ça, je connais vos goûts. Alors, je crois qu'il faut prendre Buzzati parce que vous l'aimez beaucoup.
Il y a Saint-Augustin.
Et Saint-Augustin, oui.
Dino Buzzati, j'ai peu lu de lui. J'ai surtout aimé Le désert des Tartares.
Ouais, grand livre.
Et cela, puisque nous arrivons à la fin de cette émission, me relie, puisque je m'adresse ici à des téléspectateurs, à des Françaises, à des Français qui nous écoutent tous ensemble, aussi à mes choix politiques. Car il y a toute une part de mes lectures qui sont des lectures politiques ou d'analyse politique, de dialectique. Et j'y suis venu tard, mais avec un goût immense. Lorsque je lis telle ou telle préface ou introduction d'Engels, je m'émerveille. Et de cette langue, il s'agit de traduction, je ne peux pas en juger très précisément, et de la fermeté de la pensée. Eh bien, lorsque j'ai lu Le désert des Tartares, j'ai eu soudain une sorte de révélation. Le sentiment que une nouvelle littérature, quand je dis nouvelle par rapport à l'époque qui la précède, car tout vient et revient, qui soudain, dans une société, dans un monde en destruction, signifiait qu'une aventure personnelle d'un homme face à sa vie, dans son extrême solitude, puisque le thème, c'est que cet officier, ce jeune officier, Drogo, disait-on, c'est son nom, est affecté dans un fort Bastiani, dans un pays où on situe assez mal. Moi, je situe dans mon imagination du côté du Piémont, mais comme il y a un désert des Tartares et qu'un ennemi inconnu va apparaître là, ça paraît également biscornu, peu importe l'endroit. Et que cet homme qui aura donc vécu ses 30 ans, d'abord en attendant autre chose, qui est purement matériel, puis en passant d'un plan à l'autre, en attendant autre chose, il ne sait pas trop quoi. C'est, je crois, une sorte de démarche symbolique de l'humanité qui en quête de son propre esprit, de sa propre connaissance, en même temps que c'est une littérature de l'effort et du courage, c'est-à-dire de ce que peut conquérir un homme sur lui-même lorsqu'il est amené à rester devant lui, mais aussi devant un paysage, celui de sa vie, qui ne lui apportera jamais ce qu'il attend. Et cependant, au moment où il va mourir, et c'est la dernière page de ce livre, il comprend que quand la mort pénètre dans sa chambre, soudain, la vérité. Il vient de rencontrer une vérité. Et il ne sait pas non plus encore très bien laquelle. Mais il a cherché, et il se sent digne d'être un homme. Et pour moi, je ne veux pas du tout utiliser cette émission pour me livrer à quelque considération politique que ce soit. Mais puisque vous m'interrogez et que vous me faites l'honneur devant tant de personnes de parler de ce livre, je vous dirais que c'est à travers cette recherche-là, sous sa forme littéraire et symbolique, que j'ai aussi retrouvé la grande tradition des écrivains socialistes, parce que d'une façon tout autre et par un autre cheminement, il montrait bien la forteresse, elle est là, il ne se passe rien,
Et cependant, un jour viendra quelque chose, il faut s'y préparer.
Voilà la question de la mort, bien évidemment, qui a hanté visiblement toute sa vie François Mitterrand. Quand on lit par exemple le livre de Marie de Wenzel, Croire aux forces de l'esprit, elle nous raconte combien ces questions étaient des débats permanents avec François Mitterrand, et pas simplement dans la dernière ou les dernières années de sa vie, mais pendant au moins une dizaine d'années. Et on voit bien qu'effectivement, ce qu'il lit dans Le désert des Tartares, c'est cette question de la mort, de l'attente, et de l'attente peut-être de la mort, en l'occurrence.
Oui, alors je crois qu'il y a...
Il y a une lecture particulière.
Il y a plusieurs choses aussi.
Oui, en effet, il y a... Alors il y a cette lecture-là, la dimension, la question de la mort, qui en effet est obsessionnelle, pourrait-on dire, chez François Mitterrand, et que l'on retrouve tout au long de son œuvre. Il raconte régulièrement qu'il va sur la tombe de ses amis, qu'il pense à ses parents presque quotidiennement, etc. Alors que les années se sont passées, on voit cette volonté aussi, on voit à travers toute son œuvre politique et surtout son œuvre architecturale, difficile de ne pas l'évoquer, cette volonté d'inscrire sa mémoire.
Et de rentrer dans l'histoire.
Oui, d'entrer dans l'histoire et puis de l'inscrire dans le paysage, ici urbain, parisien, bien évidemment. C'est assez banal ce que je dis là, bien évidemment.
Mais avec une bibliothèque.
Avec une bibliothèque. Bon, il y a la pyramide aussi du Louvre et la bibliothèque. Et donc, on voit en effet que la bibliothèque François Mitterrand, c'est le mausolée, en effet, de François Mitterrand. Et puis autrement, l'autre versant, c'est évidemment la façon dont il fait de Buzzati, ici, un auteur politique, façon de donner des gages au programme commun, peut-être, tout simplement, qui est à l'œuvre à l'époque.
Là, il fait campagne politique, 75.
Oui, bon, c'est ça, c'est le début. Il y a les élections législatives qui vont se profiler en 1978.
Il a perdu celle de 74.
Voilà, il se remet en selle en espérant remporter les législatives en 78, puisque Giscard n'ayant pas dissous l'Assemblée, il y a une élection qui se présente.
D'ailleurs, certains, enfin, vous suggérez, vous ou certains journalistes à l'époque, si cette émission d'Apostrophe avait eu lieu un an avant, peut-être que Mitterrand aurait gagné des voix.
C'est Bernard Pivot qui dit ça.
Bernard Pivot qui avait dit qu'il avait été étincelant, hein, quand même, qu'il avait été complètement.
À propos de Lamartine, que sa lecture de Lamartine, son interprétation avait été étincelante. Et en effet, il peut estimer, au regard du courrier qu'il avait reçu, que peut-être les 400 000 voix qui séparaient Giscard de Mitterrand en 1974, ce serait amoindri, voire évanoui.
Et d'ailleurs, Giscard d'Estaing va s'y prêter à l'exercice.
Aussi,
un petit peu plus tard, mais oui. Voilà.
Et lui aussi, il va endosser cette posture, un petit peu l'écrit.
Mais un peu moins éblouissant, quand même.
Voilà, sur un autre registre.
Et donc, beaucoup d'écrivains du 19e siècle, pour Valéry Giscard d'Estaing, en particulier, Maupassant, dont il tentera dans un roman plus tard d'imiter le style, peut-être un peu maladroitement. Alors, vous racontez bien, François Ourmand, dans votre livre sur François Mitterrand, Le pouvoir et la plume, combien cette question, et on a commencé notre série d'émissions là-dessus, cette question de la culture littéraire était classifiant, pourrait-on dire, pour nos hommes et nos femmes politiques. Peut-être elle l'est beaucoup moins aujourd'hui. Vous évoquez le terme utilisé par Christian Jouhaud de littérarisation du pouvoir, et vous reprenez ce que disait Jean-François Revel sur le style du général de Gaulle, le snobisme littéraire des hommes politiques et de leurs flagorneurs. Alors, certains de nos auditeurs nous ont dit, tiens, vous auriez pu continuer avec les autres présidents, etc. On le fera peut-être une autre fois, mais en l'occurrence, on s'est arrêté à Mitterrand, mais aussi peut-être parce que cette question littéraire a été moins revendiquée. Jacques Chirac a pu le faire de loin en loin à propos de poèmes chinois en particulier, ou de son amour de certaines littératures japonaises. Mais ensuite, ça n'a pas été le cas de Nicolas Sarkozy ni de François Hollande.
Oui, c'est vrai que la question de la littérarisation du pouvoir, c'est De Gaulle qui pose en quelque sorte... La conjonction de deux formes de grandeur, la grandeur politique et la grandeur littéraire, en étant l'homme de l'histoire et l'homme des mémoires. Mmh. Hein, bon, celui qui fait l'histoire et celui qui la raconte. Mitterrand joue, lui, cette carte, on le voit bien, sous la Ve République, cette carte de la littérature aussi, pour essayer finalement de s'exaucer à la hauteur de son rival gaullien. Giscard, on voit aussi ses tentatives, en effet, et puis finalement, il réussit à se faire élire à l'Académie française. Gage, finalement... manière de donner des gages, là aussi, à la littérature. En revanche, avec tous ses successeurs, Chirac, Sarkozy et Hollande, on est passé dans un autre registre. Alors, est-ce qu'il faut lier ça à la question de la socialisation de ces présidents? Parce que finalement, les successeurs, sauf Sarkozy, mais Chirac comme Hollande, ce sont des énarques. Les autres, ils avaient tous une socialisation pré-énarchique où l'école normale supérieure a longtemps été un vivier des élites de la République, ou le barreau pour François Mitterrand. Avec évidemment Chirac et Hollande, on est dans un autre registre, plus technocratique, comme c'était le cas aussi avec Giscard. Mais on voit bien en effet que ce rapport à la littérature, il s'est largement délité, pas complètement. En même temps, si on voit la volonté qu'a pu manifester Nicolas Sarkozy, après ses pas propos malheureux sur la princesse de Clèves, etc., de faire des lectures accélérées, combien de fois ne l'a-t-on pas vu ici et là, un livre sous le bras, en allant à Bruxelles, etc. Il y a de nombreuses photos qui attestent de cette conversion, et Fogg raconte comment il s'est mis à lire de façon frénétique aussi.
François-Olivier Gisbert.
François-Olivier Gisbert raconte ça.
Est-ce que c'est plus généralement le rapport à la culture, c'est-à-dire la question du politique et de la culture en général quand même?
Sans doute, je pense qu'il y a une déperdition évidemment du rapport à la culture lettrée. On le voit bien évidemment aujourd'hui à l'heure des nouvelles technologies, de l'aide d'illusion ou des règles orthographiques, etc. Donc le rapport à la langue n'est plus du tout le même. La dimension déférentielle peut-être aussi à l'égard des écrivains n'est plus du tout la même. De la création littéraire. Mais on voit bien que, mais en même temps c'est très ambivalent parce qu'on voit bien que certains auteurs, certains acteurs politiques comme Bruno Le Maire ou encore Dominique de Villiers ont tenté cette carte en étant notamment publiés chez Gallimard et ont été reconnus justement par ces publications.
On se souviendra et on se souvient en vous lisant François Ourmand dans François Mitterrand, Le pouvoir et la plume aux presses universitaires de France, portrait d'un président en écrivain, que lorsqu'il se fait photographier pour sa photo présidentielle, photographie prise par la grande photographe des écrivains, entre autres Gisèle Freund, donc il dit « Tenez compte pour mon portrait que je suis un écrivain avant d'être un homme politique ». C'est quand même effectivement une phrase assez forte de celui qui, et ça on le lit en ouvrant Les Lettres à Anne ou encore Le Journal pour Anne publié chez Gallimard, avait choisi comme ex-libris une chouette, yeux grands ouverts et ailes déployées. Et il y avait un ex-libris, François Mitterrand, qui l'a posé sur les livres qu'il achetait chez les bouquinistes très nombreux. Et là on peut citer effectivement Le Erasme de Stephen Zweig ou encore Les Amers de Saint-John Perse qu'il avait acheté en édition originale chez L'Olier Rudsen le 13 décembre 1971. Merci à vous François Ourmand d'être venu pour conclure cette émission et cette série d'émissions que nous avions consacrée aux bibliothèques des présidents de la République à quelques semaines de nos élections présidentielles futures. Merci beaucoup et merci à vous Séverine Niattard d'avoir préparé cette émission. Une émission préparée avec Aurélie Marsay et avec Francesca Fossati. Jean-Guy Lamèche nous a accompagnés à la technique et Françoise Camard à la réalisation. Si vous voulez nous écouter ou nous réécouter, télécharger cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez également discuter, et vous avez été nombreux à le faire depuis le début de la semaine, avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou encore nous suivre sur le réseau Twitter Fabrique FC, c'est notre adresse, Fabrique FC.